La période des vœux, c'est aussi une occasion de montrer de la sympathie à l'égard de quelqu'un. C'est parfois l'occasion de renouer un contact en envoyant une carte de vœux, de montrer un attachement à quelqu'un, de l'assurer que nous ne l'oublions pas. En résumé, présenter ses meilleurs vœux, c'est une déclaration de bonne disposition à l'égard de quelqu'un. J'ai trouvé dans un dictionnaire cette définition. Un vœu, c'est un souhait en faveur d'une personne. Dans le monde professionnel, mais pas seulement, c'est aussi l'occasion de définir des objectifs pour l'année nouvelle, après avoir fait le bilan de l'année écoulée. Et cela a déjà été évoqué dans la présidence. On veut se souvenir qu'en 2021, eh bien, tout n'a pas été rose, il y a eu des épreuves. Et pour ceux qui ont connu ces épreuves, je voudrais simplement relire ce verset et en faire une prière. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs. Dans la Bible aussi, on parle de vœux, mais dans un autre sens. On peut lire dans le nouveau dictionnaire biblique la définition suivante. Un vœu, c'est un engagement volontaire de se consacrer à Dieu ou de lui donner un enfant ou des biens. Le mot vœu dérive d'un verbe latin qui signifie promettre. Un vœu, ça n'est donc pas un souhait, mais c'est une promesse faite à Dieu, une résolution ferme. Au sens biblique, un vœu, et là vous remarquerez le singulier, ce n'est pas des vœux, c'est un vœu, ce n'est pas un souhait, mais c'est une promesse. Nous ne demandons pas quelque chose pour nous ou pour autrui, mais nous offrons à Dieu un sacrifice. Et dans une première partie, je vous propose d'examiner trois situations où des personnages bibliques ont formulé un vœu. La première lecture, nous l'avons faite il y a quelques semaines dans le premier livre de Samuel, lors d'études bibliques. C'est Anne, dont vous savez qu'elle a connu une période de stérilité assez longue, qui l'affectait beaucoup. Et pendant qu'elle est dans l'attente de l'exaucement de son souhait, elle formule cette prière. Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Anne s'engage, si Dieu exauce sa prière, à consacrer son enfant au service de Dieu en signe de reconnaissance. Un autre vœu sera formulé, lui, par Jacob. Pour resituer le contexte, je n'afficherai pas le texte qui est un peu long, mais je vous relirai les quelques versets au cas où certains ne seraient pas familiers avec ce texte. Jacob vient de quitter sa famille et on nous dit qu'il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'occident et à l'orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'aie exécuté ce que je te dis. À ce stade, on peut remarquer que c'est Dieu qui, le premier, renouvelle l'alliance et les promesses qu'il a faites à Abraham. Je reprends la lecture. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. On en arrive au passage qui nous intéresse ce matin. Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Fin de la lecture. En réponse aux promesses que Dieu lui a rappelées, Jacob s'engage à honorer Dieu, puisqu'il dit « L'Éternel sera mon Dieu », et à lui donner la dîme de tout ce qu'il recevra. À ce stade, j'ai envie de faire quelques remarques. Est-ce que vous avez noté la différence de nature entre ce que Dieu promet à Jacob et ce que Jacob promet à Dieu ? Dieu promet à Jacob que sa postérité sera bénie, qu'il disposera d'un immense territoire. Et Dieu l'assure qu'il le gardera partout où il ira, qu'il ne l'abandonnera jamais. Eh bien, même avec cette assurance, Jacob répond « Si Dieu me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Quel contraste! Les promesses de Dieu ont une portée bien plus grande que ce qu'en retient Jacob, qui est bien plus préoccupé par ses circonstances présentes que par les promesses que Dieu lui a faites. Est-ce qu'il n'en est pas de même pour nous? Est-ce que nous ne sommes pas davantage préoccupés par notre présent, par les choses immédiates, que par les choses éternelles que Dieu nous promet? Je crains que malheureusement, nous, humains, nous soyons faits ainsi de voir le présent, le futur immédiat, et que nous ayons bien du mal à mesurer l'étendue des promesses qui nous sont faites par Dieu. Deuxième remarque que je voudrais faire, vous avez peut-être, comme moi, été frappé de la formulation des vœux. Si Dieu fait ceci, alors je ferai cela. Et je me suis interrogé sur la façon dont il fallait comprendre cela. Est-ce que Jacob serait en train de tenter un deal, tenter de faire un marché avec Dieu? Est-ce qu'il serait en train de tenter d'acheter la faveur de Dieu, de la gagner? On n'est pas dans leur cœur, on ne peut pas répondre assurément. Si on veut donner une réponse qui suppose leur bonne volonté, je dirais qu'ils remercient par anticipation. Et je me suis interrogé, je n'ai pas de réponse certaine à cela, mais est-ce qu'à la place d'un « si », on pourrait mettre un « puisque » ? Ce qui ne serait pas un doute. Je n'ai pas de réponse, vraiment. Mais dans votre vie chrétienne, est-ce qu'il vous est jamais arrivé de formuler des phrases du même genre « si tu exauces ma prière » alors je m'engage à. Troisième personnage que nous allons examiner, c'est David. Première lecture dans 2 Samuel 7. Lorsque David fut installé dans son palais et que l'Éternel lui eut donné du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit au prophète Nathan, « Vois donc, j'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente. » Vous allez me dire, on ne parle pas de vœux. Mais si on lit le psaume 132, David fit ce vœu au puissant de Jacob. « Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assouplissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. » Cette fois, il n'y a pas de « si ». Alors, David prend seul une résolution. Il est conscient d'avoir été béni par Dieu et il veut lui montrer sa reconnaissance en lui construisant un temple. Pourtant, vous savez que Dieu ne va pas accéder à ce souhait de David. Il ne va pas lui permettre de construire ce temple. Pourtant, David a les meilleures intentions possibles et il essuie quand même un refus. Bien cela ne va pas arrêter le vœu de David. David va faire ce que Dieu lui permet de faire en ces circonstances. Il va faire tous les préparatifs pour que son fils Salomon puisse construire le temple au temps voulu par Dieu. L'engagement qu'a pris David était inconditionnel. Et le fait que les choses ne se soient pas déroulées comme il l'aurait voulu ne l'a pas fait renoncer à accomplir son vœu. Il s'est simplement conformé à la volonté de Dieu et il a fait ce que Dieu lui permettait de faire. Alors à la fin de cette première partie, peut-être que vous vous dites, bon, d'accord Philippe, ce sont de beaux témoignages, mais en quoi est-ce que ça nous concerne aujourd'hui? Alors je vous poserai cette question, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire un vœu? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de formuler un vœu? C'est à chacun en particulier d'apporter sa propre réponse. Je crois que pour la majorité d'entre nous, la réponse est oui, au moins une fois. Le jour de notre baptême, nous avons fait publiquement le vœu, la promesse de suivre Jésus-Christ, de renoncer au péché, et ce vœu nous engage. Et je vous propose dans une deuxième partie de voir ce que l'Écriture nous enseigne sur les vœux, de manière à pouvoir déterminer si nous sommes dans la volonté de Dieu. Je passe sous silence toutes les ordonnances qu'on trouve dans Lévitique, Nombre ou Deutéronome qui concernent surtout les offrandes et les sacrifices, mais je retiendrai les points suivants. Un vœu est toujours librement consenti. Si on lit Deutéronome 23, « Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas de péché. » Autrement dit, il n'y a aucune obligation à formuler un vœu. Mais la suite nous dit « Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres, par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. » Dieu ne contraint personne à lui faire des promesses. Le cas d'Anne, de Jacob ou de David, dans ce cas-là, c'est volontairement et en toute liberté de conscience qu'ils ont formulé leurs vœux et pris des engagements. Dans le cas du baptême, celui qui demande le baptême le fait en toute liberté et en pleine conscience. C'est pour ça que dans notre famille d'Église, nous ne baptisons pas des enfants, mais des adultes. Deuxième point qui nous est enseigné par l'Écriture, un vœu doit toujours être réfléchi. Dans Proverbe 20, nous pouvons lire « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » Et pourquoi ça doit être réfléchi? Eh bien, parce que ça va impliquer des choses dans notre existence. Et par exemple, on peut lire dans Matthieu, Jésus dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Dieu ne nous promet pas une vie facile, ni un chemin sans embûche. S'engager à suivre Christ implique de la persévérance. Il ne faut donc pas s'engager à la légère. C'est pour cela que dans toutes les églises, je crois, on dispense aux futurs baptisés une préparation au baptême pour expliquer à quoi ils s'engagent. Et puis, troisième point, on l'a déjà entrevu dans le premier point cité, un vœu doit impérativement être tenu. Deutéronome 23, « Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. » Non seulement l'Écriture nous engage à honorer nos promesses, mais à le faire sans tarder. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, nous dit l'Ecclésiaste, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les hommes stupides. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Dieu, lui, ne revient jamais sur une promesse qu'il a faite. Cette promesse peut rester parfois sans effet pendant un certain temps. J'ai relu récemment le livre des Chroniques et on voit que dans l'histoire d'Israël, effectivement, à certains moments, les promesses faites à Israël sont suspendues. Parce que Israël s'est éloigné de Dieu et donc s'est privé de cette bénédiction. Mais dès qu'Israël reconnaissait son péché et se repentait, il était au nouveau au bénéfice des promesses divines. On peut lire dans 2 Chroniques 7, « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Ces promesses nous ont été rappelées autant par Nasser que par Jiel. Dieu, lui, ne revient jamais sur ses promesses. Que retiendrons-nous donc de cette méditation sur les vœux? Un vœu au sens biblique, c'est une promesse faite à Dieu. Et lors de notre baptême, nous avons pris l'engagement d'obéir à Dieu, de renoncer au péché. Nous avons vu que cet engagement est librement consenti, qu'il ne doit pas être pris à la légère au moment où on demande le baptême, mais aussi pendant toutes les années durant de notre vie. Le baptême, ce n'est pas un engagement d'un jour, c'est l'engagement d'une vie. Et enfin, l'Écriture nous rappelle de tenir nos promesses, car Dieu lui tient toujours les siennes. J'espère ne choquer personne en citant une phrase de Jean-Paul II qui avait déclaré lors d'une visite « France, souviens-toi de ton baptême ». Je crois que cette parole, on peut l'adresser à chaque chrétien. « Souviens-toi de ton baptême ». C'est une phrase qui s'adresse à chacun de nous. Nous avons vu des exemples à suivre. Anne, Jacob, David. Anne qui est pour nous un exemple de fidélité à la parole donnée à Dieu. Elle a effectivement consacré son premier-né à Dieu et en a été richement bénie, puisqu'elle eut ensuite 3 fils et 2 filles, alors qu'elle était demeurée longtemps stérile. La générosité de Dieu va bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Là où nous pourrions être tentés de penser que nous nous dépouillons pour Dieu, sachons que Dieu a en réserve des bénédictions bien plus grandes que ce à quoi il nous demande de renoncer. Ainsi, l'obéissance à Dieu, qui est pour beaucoup considérée comme une perte de liberté, je me souviens d'un collègue avec qui j'avais une discussion une fois qui me disait « Ah, cette religion où on doit toujours obéir !» Le mot lui était insupportable. Il avait l'impression de perdre sa liberté. Eh bien, au contraire, elle est le véritable moyen de nous soustraire à l'esclavage du péché et de nous retrouver vraiment libres. Souvenons-nous aussi que Dieu, lui, honore toujours ses promesses. Nous pourrons également prendre exemple sur David, qui a su être reconnaissant et persévérant, même si Dieu n'a pas accédé à son désir de construire le temple. David n'a pas dit « si tu me permets de construire le temple, alors je te ferai un temple magnifique, etc. » Non, David s'est entièrement soumis à la volonté de Dieu, mais il n'a pas renoncé à honorer Dieu de la façon dont Dieu lui avait permis de le faire. Enfin, pour conclure, je vous laisserai ce verset qui pourrait être une espèce de mot d'ordre permanent pour l'année. Cherchez plutôt le royaume de Dieu en 2022, et toutes ces choses que nous avons l'habitude de nous souhaiter vous seront données par-dessus. Amen.